Robert, je suis psychiatre et je représente ici le PSM Val de Lissartois de Saint-Jean. C'est un établissement dans lequel je travaille depuis à peu près 5 ans. Et c'est un établissement qui fonctionnait jusqu'à très peu de la manière suivante, à savoir un secteur psychiatrique égale un service intra-hospitalier, un secteur extra-hospitalier avec pas mal de frontières entre les différents secteurs géographiques et psychiatriques. C'était des frontières solides, que je considérais des fois, vu mes origines, comme un mur de Berlin, avec quelques passerelles, timides, souvent rétractables, et qui posaient pas mal de problèmes, puisqu'il y avait très peu de réflexion entre différents services. Il est arrivé quand même un événement qui nous a beaucoup aidé, qui était cette certification et auto-évaluation qui nous a forcé un peu à travailler ensemble. C'est-à-dire il s'est passé quelque chose de très magique, à savoir le travail de service de qualité qui a constitué des groupes de travail. C'est-à-dire des groupes de travail autour de différents référentiels, vous connaissez tous cette démarche. Et c'était donc avant tout des personnes volontaires, intéressés par le sujet, mais il y a eu quelque chose, un mélange assez savant, à savoir pluridisciplinarité. Donc il y avait des médecins, des infirmières, psychologues, etc., qui étaient tous autour de la même table, et surtout des personnes de différents secteurs psychiatriques. Et donc nous avons petit à petit, nous avons découvert le plaisir de travailler ensemble, le plaisir de découvrir que peut-être notre voisin travaille peut-être différemment, mais c'est peut-être complémentaire, etc. Donc cette certification, nous l'avons réussie avec succès, et ça nous a laissé finalement, après tout ça, la restitution de la certification, il y avait un petit peu le goût d'inachevé. Donc nous avons décidé de continuer sous forme de groupe de réflexion autour des sujets qui nous paraissaient pertinents après la certification. J'ai retenu quelques sujets, à savoir tout ce qui est le droit à l'intimité du patient, la confidentialité, le respect des droits des patients au vu de la loi de Kouchner, etc. Ensuite, tout ce qui est la contention, isolement, la prise en charge du patient dangereux, et le différencier de la prise en charge du patient détenu, parce que là c'était la grande difficulté, faire la différence, adapter notre approche, puisque à Saint-Denis on a régulièrement des hospitalisés, puisqu'on a des chambres d'isolement. Donc la question numéro 1, avez-vous une chambre d'isolement? Ça veut dire qu'on vous envoie un détenu. Ouais. Et tout en sachant que nous avons une perspective assez, donc à court terme, la construction d'une maison d'arrêt à Saint-Denis de 700 places, et ce qui nous a également poussé dans cette réflexion autour de la prise en charge de détenus. Donc ce groupe de réflexion travaille régulièrement. Nous avons déjà avancé un travail sur la bientraitance avec une information et formation donnée au personnel, l'information faite autour de la prise en charge de détenus. Et là, donc, je reviens juste d'une formation avec quelqu'un de paramédical, une surveillante, enfin un cadre de santé, pardon. Nous avons participé donc à la formation sur Paris, et dans la suite de notre projet, c'est une formation auprès du personnel de l'EPSM qui sera proposée comme une formation continue en intra-hospitalier. Donc je crois que par la suite, la logique veut qu'un comité éventuel d'éthique puisse voir le jour, et je dirais que certaines personnes de ce groupe de réflexion existant déjà vont constituer ce comité d'éthique, mais nous allons bien évidemment demander de l'aide aux personnes formées et spécialisées pour nous aider et continuer cette réflexion. Donc très clairement, je dirais que la réorganisation également de l'EPSM en pôle d'activité a permis un peu de pousser encore plus loin la transversalité, pas seulement en intra-pôle, mais entre les pôles d'activité. Un des éléments très importants et très intéressants, c'était le travail autour des personnes addictes, parce que je suis responsable du service d'addictologie ambulatoire, et la culture addictologique évolue lentement mais sûrement, Et puis c'était très très intéressant d'organiser un EPP autour de la connaissance de travail d'une équipe de liaison en addictologie, ce qui a permis également de faire un lien avec le travail que nous faisons auprès des personnes démunies, des SDF, des toxicomanes, etc., etc. Donc là, nous sommes également donc, au début de notre travail. Je crois que nous étions obligés, au niveau de Saint-Denis, de travailler avec la réalité du terrain, avec des difficultés de contact entre les différents services, avec une dynamique qui s'installe depuis peu. Il y a eu le départ de différents chefs de service en retraite, donc il y a des changements. Et donc l'arrivée très très bientôt d'un directeur, je crois que c'était 5 décembre. Donc voilà ce que je voulais dire à ce sujet.
Merci Madame Grapoulière. L'intérêt de votre témoignage, c'est qu'on est au moment où le comité est encore embryonnaire, il n'existe pas encore, il n'existe que dans l'imagination et les rêves de ses parents. Hein, vous êtes. Donc, vous dites une phrase, vous dites la logique va nous pousser à former un comité d'éthique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce qui constitue cette logique-là? Quelles sont les demandes, quelles sont les attentes qui constituent la logique qui, vous semble-t-il, vont vous pousser à créer ce comité?
Tout d'abord, toute une réflexion autour de la contention et de l'isolement des patients. Nous sommes rendus compte au départ que dans différents services, ces pratiques étaient très différentes. Donc il y a eu bien évidemment des discussions, des échanges assez importants. Pour avoir pratiqué lors des garde de psychiatre les passages pour faire le fameux NCIT, donc remplir les documents concernant les patients contenus isolés, etc. Donc chaque service avait une pratique différente. Là, on est actuellement dans une espèce de transversalité. On est très clair, dans tous les services, c'est une même pratique. Mais cet échange a permis une réflexion également auprès du personnel paramédical autour de qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire isoler, contenir un patient? Est-ce qu'un détenu doit être forcément d'emblée isolé? Est-ce qu'on a le droit de le détacher? Quelle est la différence entre la fugue et l'évasion? Et quelle est la signification de passage quotidien? Qu'est-ce que ça veut dire une chambre d'isolement? Est-ce qu'on a le droit de mettre de la musique, la télé, les caméras? Et autour de ça, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions et le personnel exige en quelque sorte des formations beaucoup plus poussées que jusqu'à présent.